Radio Star Bell.
Morning edition from NPR
News.
Radio Rosana Piperino.
Lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir vous emmène en Corée du Sud. Vous ferez connaissance avec un drôle de phénomène, les webtoons. Un manga, une appli et le reston déroule. Vous découvrirez ça dans un instant. Sébastien Logelli nous fait rencontrer des guerriers Maasai et écouter de la musique bizarre, vous le verrez. 18h50, Sandy Dauphin, la planète côté propre et côté sale. Nous ferons connaissance avec des sortes de géotrouve-tout qui luttent avec plus ou moins de bonheur contre le réchauffement climatique. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers. Ou comment l'actualité moins semble qu'elle en a l'air. Pour vous faire réagir ce soir et si Trump avait raison sur Jérusalem. Mais tout de suite, depuis ce matin sur France Inter, on est au Kurdistan syrien qui juge déjà des djihadistes locaux. La question se pose pour les Français. Puis on reste dans la région avec les bombardements turcs qui ont de quoi inquiéter une communauté internationale qui, ma foi, est plus encline à bouger. Et on vous explique pourquoi.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Frédéric Tissot.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes ancien consul général de France au Kurdistan irakien, vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po Paris. En ce moment, vous avez notamment écrit « L'homme debout, humanitaire, diplomate, anticonformiste », c'était chez Stock. Alors j'ai bien conscience, Frédéric Tissot, qu'on est dans deux problématiques, dans ce Kurdistan syrien qui, à lui seul, est déjà extrêmement compliqué. On va en venir évidemment au bombardement actuel de la Turquie, essayer d'expliquer pourquoi sur l'enclave d'Afrin. Et avant ça, je profite de votre présence pour aller aussi en direction de Kamishli, c'est la capitale de ce Kurdistan syrien. On y est depuis le début de la journée sur France Inter. C'est là notamment que sont enfermés des djihadistes locaux, mais aussi étrangers, dont français. Et là aussi qu'on se demande s'ils sont réellement jugeables. Nous y sommes donc depuis ce matin. Avant de rejoindre Jérôme Jadot, une question pour vous Frédéric Tissot. À quoi ça ressemble ce Kurdistan syrien, cette partie-là du Kurdistan? Surtout, ça a beaucoup bougé au fil de la guerre contre Bachar el-Assad.
Au niveau démographique.
Au niveau territoire, surtout.
Territoire. C'est-à-dire que les forces démocratiques syriennes ont pris, avec la partie arabe et kurde, ont pris l'ensemble du Rojava, l'ensemble de cette région. Le Rojava voulant dire là où le soleil s'en va, se couche. Et il a été repris par les Kurdes, en sachant que les forces syriennes de Damas avaient aussi passé un accord secret, disons, avec les Kurdes, de façon à ce qu'effectivement, ce soit les Kurdes qui règlent tout cela. Mais il y a différents Kurdes au Kurdistan.
Bien d'accord, c'est toute la difficulté là d'ailleurs.
Tout à fait, il y a plusieurs partis, on parle que d'un parti, et effectivement c'est le plus fort, c'est celui qui dépend du PKK à tout niveau, même s'il est composé de forces réelles, hein, notamment des femmes, mais pas uniquement bien sûr, et il y a d'autres partis kurdes dans cette région qui ne s'expriment pas beaucoup.
Et pas de la même manière.
Est-ce
qu'on dit que de facto, on est dans une région autonome? Elle l'a proclamée elle-même en 2013, cette région finalement.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que, et ça va nous emmener vers le reportage de Jérôme Jadot, est-ce que ça veut dire qu'on a bâti ici des institutions tenables dans la foulée?
Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de qui? Et qui c'est on? Qui est on, ce on? Est-ce qu'il est reconnu par les habitants?
Ah! On sonne à la grille du parc.
Les habitants, mais non, mais c'est le...
Allez-y, fermez votre portable.
C'est le Kurdistan qui m'appelle toujours. C'est... et qui est ce « on » Est-ce que c'est un système reconnu par qui? C'est une région où il y a effectivement un parti qui est très fort à tout niveau, politiquement et militairement, et qui a proposé cette région autonome... et qui a réussi à l'imposer. Mais elle a été acceptée par nombre de populations.
Alors Frédéric Tissot, restez avec nous. On va faire un aller-retour dans cette capitale du Kurdistan syrien. Rejoindre Jérôme Jadot. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Jérôme, dites-nous à quoi, on y faisait allusion à l'instant quand on parlait du fameux « on », dites-nous à quoi ressemble la justice dans cette région autonome. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors c'est d'abord un système très récent, hein. Les premiers tribunaux locaux ici ont été montés après la proclamation d'indépendance, d'autonomie plutôt, à partir de 2013. La cour antiterroriste, elle, date de 2014, de novembre 2014, en tout cas pour celle de Camichli, dans laquelle j'ai pu me rendre cette semaine. On passe d'abord un lourd portail blindé, des hauts murs d'enceinte surmontés de barbelés, et derrière ça, on trouve une toute petite salle d'audience. Vous faisiez référence tout à l'heure au PKK. Eh bien, un grand portrait de son leader, Abdullah Öcalan, se trouve dans cette salle d'audience, qui n'est pas plus grande qu'un bureau. Trois fauteuils pour les juges, un pour le procureur et une chaise pour l'accusé. 700 terroristes présumés y sont passés l'an dernier. Aucun étranger, hein, mis à part quelques Irakiens. Les procès y sont rapides, une à trois heures. Les peines prévues par la loi antiterroriste vont de 1 à 20 ans de prison, une peine maximale à laquelle ont été condamnés une vingtaine de djihadistes l'an passé, notamment pour avoir commis des attentats, des peines pour lesquelles il n'est pas possible de faire appel. Les accusés n'ont de toute façon pas d'avocat lors de ces procès qui ont lieu à huis clos. Les autorités locales promettent que cela va évoluer, mais pour les associations de défense des droits de l'homme, c'est clair, les conditions d'un procès équitable ne sont pas réunies pour le moment.
Bah oui, c'est ce qu'on entend, hein, Jérôme, de la part des avocats parisiens de ces djihadistes français qui réclament donc un procès en France. Juridiquement d'abord, où est-ce qu'ils devraient être jugés ?
Alors, c'est à la fois complexe et simple. On commence avec la version simple, celle de Bedran Jiakurd, influent cadre du régime autonome du nord de la Syrie.
Ces Français appartiennent à un groupe terroriste. Ils ont commis des crimes ici. Donc, bien sûr qu'ils doivent être jugés ici. Mais en France aussi, ils ont commis des crimes. Donc, selon la loi française, ils devront rendre des comptes là-bas. Si jamais le gouvernement français ne voulait pas les reprendre, ce serait une position de faiblesse.
Deux procès, donc, solution qui permettrait aux éventuelles victimes des deux pays d'assister facilement aux audiences. Impossible, en revanche, d'être jugé deux fois pour les mêmes faits. C'est une règle de droit. Et pour certains actes, la ligne de crête pourrait être ténue.
Jérôme, d'un point de vue politique, qu'est-ce que ça implique, un procès dans le nord de la Syrie ?
Alors, pour Paris, évidemment, ça pourrait éviter de froisser une opinion publique peu encline à voir revenir des djihadistes. Cela pourrait aussi obliger la France à reconnaître sous une forme ou sous une autre le système judiciaire local et donc à légitimer cette région autonome. Celle-ci en tirerait un gain politique, mais pratiquement, organiser ces procès serait très difficile, estime Omar Abdulkarim. Il est chargé des affaires étrangères de la région de Djezire.
Au regard de nos moyens limités, nous préférions que les Français soient pris en charge par le gouvernement français. On a des centaines de terroristes ici. Il faut des prisons, de la nourriture, de la sécurité. On a contribué à sauver l'humanité en combattant le terrorisme. Maintenant, il faudrait que chaque pays reprenne ses ressortissants membres de l'État islamique et les juge. Ça nous aiderait vraiment.
Et puis, l'instabilité politique régionale fragilise aussi les éventuels jugements qui seraient rendus par ces tribunaux locaux. Que se passerait-il par exemple si Bachar al-Assad reprenait le contrôle de la région, intention qu'il ne cache plus désormais.
Une toute dernière chose, Jérôme, si vous le voulez bien, il y a beaucoup d'enjeux, évidemment, on l'a compris à travers ce que vous nous racontez. Il y a une dimension dont on parle peut-être moins, c'est la dimension historique.
Ben oui, parce que les procès servent d'abord à rendre la justice, mais ils contribuent aussi à écrire l'histoire, pour peu qu'il soit public ou en tout cas sérieusement consigné. Nadim Houri est un observateur de l'ONG Human Rights Watch. Il est en visite en ce moment dans le nord de la Syrie.
C'est d'avoir aussi un recueil juridique qui peut faire partie un peu de ce travail de narration de ce que les djihadistes ont fait. Parce que je pense que le procès peut marquer aussi... comme l'ont été les procès de Nuremberg et d'autres, s'ils sont bien menés, une opportunité d'écrire l'histoire et qui, à mon avis, jouerait un rôle très pédagogique pour être un chapitre de conclusion à ces crimes horribles qui ont été commis.
Et pour ça, aux yeux de Nadim Houri, il faut un procès équitable et donc en France, à moins que Paris ne s'investisse dans un soutien financier, technique, juridique auprès des tribunaux locaux du nord de la Syrie pour en élever les standards.
Jérôme Jadot, merci mille fois. Grâce aux moyens techniques aussi d'Éric Audra à Camichli, capitale du Kurdistan syrien. Il y a une chose qui me frappe, Frédéric Tissot, dans ce que j'ai entendu dans le reportage de Jérôme. Attention, si on juge ces gens là-bas, ça légitime cette région autonome. Est-ce que ça fait partie, effectivement, oui, des arguments qui fait qu'on s'en éloigne ?
Écoutez, bien entendu, si vous imaginez, on irait faire juger des citoyens et des citoyennes français, françaises, dans un état qui n'en est pas un. Où est le code pénal? Par qui a-t-il été écrit? Où sont les tribunaux reconnus par le peuple? C'est là encore, c'est on qui a fabriqué tout ça. Hein. C'est pas une nation, c'est pas un gouvernement qui a été élu normalement par un peuple. Je ne connais absolument aucunement les votes hein, qui ont été réalisés dans cette région. Ça n'existe pas. Malheureusement, ça ne veut pas dire que tout cela n'est pas légitime. Mais je parle de est-ce que nous, République française, pouvons-nous légitimement, en toute morale, laisser des concitoyens, jusqu'à preuve du contraire, être jugé et risquer la peine de mort.
Ça, c'est interdit par le droit, par ailleurs, de risquer quelque chose de supérieur à ce que nous pourrions risquer.
Non, mais c'est bien pour ça que je le dis. Hein, je crois que la France a voté contre la peine de mort dans le monde entier.
Frédéric Tissot, puisqu'on est dans cette région et que quand on parle de Kurdistan, c'est forcément vers vous qu'on se tourne, je voudrais qu'on bouge un tout petit peu. On est toujours au nord de la Syrie, on est un peu plus à l'est dans cette fameuse enclave d'Afrin qui est bombardée depuis samedi. L'ouest, un peu plus à l'ouest, pardon, absolument, un peu plus à l'ouest, dans cette enclave d'Afrin. D'abord, expliquez-nous c'est quoi cette enclave, pourquoi les Turcs ont lancé cette opération au rameau d'Olivier, et surtout pourquoi maintenant, en fait?
Parce que cette enclave est toujours aux mains des forces kurdes. Et jusqu'à maintenant, personne n'avait réussi, en tout cas ni...
Mais parce qu'elle a une histoire particulière peut-être, non, l'enclave d'Afrin?
Bien sûr, ça a toujours été cette région, surtout occupée par des Kurdes, hein, qui permettait les passages Turquie, Syrie et toutes sortes de trafic, mais aussi de voyageurs. Et là, effectivement, c'est très... On est en bord de mer. C'est très important. Si vous imaginez, si de Khamisli on pouvait aller en cyclomoteur Khamisli jusqu'au bord de mer, ça serait quand même assez intéressant pour les Kurdes. Et c'est cela que les Turcs ne veulent absolument pas.
Mais pourquoi maintenant? Parce que ils le veulent depuis jamais. Donc pourquoi maintenant?
Ils l'ont jamais voulu.
Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Maintenant, parce qu'ils peuvent faire la guerre comme ils veulent dans cette bande du nord de la Syrie. Avant, c'était impossible. Il y avait l'aviation russe qui surveillait le ciel de la Syrie. Les forces américaines, il y avait aussi des forces françaises, les forces de la coalition. Aujourd'hui, on a l'impression que cette coalition a disparu. La preuve, d'ailleurs. Les Américains avaient dit que... Ils allaient former 30 000, etc. Erdogan décide de...
Alors, les Américains disent qu'ils vont former 30 000 personnes pour servir de protection le long de cette frontière, ce qui est effectivement exactement ce que les Turcs ne veulent pas, puisqu'il y aurait des Kurdes dans ces 30 000 hommes.
Bien entendu.
Donc ça veut dire que d'un côté, les Américains nous disent il faut créer une fameuse unité de 30 000 personnes, mais de l'autre côté, ils disent aussi aux Turcs, on comprend votre souci par rapport à la frontière. Oui. Ça s'appelle quand même dire tout et son contraire.
Oui, ça veut dire laisser tomber les Kurdes, surtout. Et on les a laissés tomber, si on peut dire, du côté irakien. Ils ont tout fait pour se laisser tomber tout seuls aussi. Et du côté syrien, j'ai bien peur, malheureusement, qu'une fois de plus, la communauté internationale et tous nos amis...
Donc nous aussi, par ailleurs.
Mais bien entendu, je fais partie de cette communauté internationale et nous allons laisser tomber les Kurdes à Afrin. Et dans tout le reste de cette bande, parce que M. Erdogan a promis, et il le fera, s'il gagne à Afrin, il ira plus loin.
Alors, plus loin, ça veut dire où? Était-il question, notamment, pour les Kurdes, de profiter de cette période de guerre pour créer un lien, en fait, entre les territoires qui sont déjà les leurs et plus à l'ouest, donc Afrin?
Bien entendu. Bien entendu, parce que c'était de toute façon un territoire qui a de tout temps été occupé par des Kurdes et qui là aussi avait été arabisé par Hafez el-Assad et son fils Bachar el-Assad. Rappelez-vous quand même, et je ne sais pas si les Français le savent, c'est qu'à un moment donné, il y avait 320 000 Kurdes qui avaient été déchus de leur nationalité. Ils étaient en Syrie, syriens, mais sans papier, sans passeport, déchus de leur nationalité. Formidable. Et donc, les Kurdes ont toujours été réprimés, uniquement parce qu'ils étaient Kurdes, d'ailleurs.
Quel rôle joue la Russie dans cette histoire-là? Quelle influence joue-t-elle? Même on dit qu'elle a été prévenue et quitté l'enclave d'Afrine, précisément juste avant les bombardements.
Bien sûr, la Russie, Poutine est un malin extraordinaire. Hein, on l'a vu depuis quelques années, depuis 2013 notamment. Cette fameuse ligne rouge, bon, n'en parlons plus, chimique. Et là, il a quitté parce que il ne voulait pas être empêtré avec son allié turc. Les Turcs ont prévenu Poutine qu'il allait attaquer à Afrin. Les Russes ne voulaient surtout pas être mêlés de près ou de loin à cette ingérence meurtrière.
Frédéric Tissot, les Kurdes, oui, cet après-midi, là, disent appellent à la mobilisation générale. Vous l'avez dit vous-même, c'est difficile de trouver de l'unité, y compris d'ailleurs du côté des Syriens eux-mêmes. Est-ce que cette mobilisation générale a du sens? Est-ce que ça veut dire qu'il peut se passer quelque chose de plus important, là, tout de suite, entre les Kurdes et les Turcs?
Bien sûr qu'il faut se mobiliser, et plus que les Kurdes, d'ailleurs. Parce que là, il va y avoir, si on les laisse faire, et d'ailleurs ça a commencé, de vrais massacres. Les pilotes turcs, ils n'ont pas des viseurs pour éviter les mamans enceintes, etc., etc. Non, ils bombardent. Et au sol, ils tirent à vous avez vu les chars, etc. Voilà. C'est tout, c'est la guerre et on écrabouille tout. Et d'ailleurs, mais c'est ce que Erdogan veut faire. Il l'a dit et répété. Il ne veut plus aucune vermine que sont ces Kurdes.
Mais du coup, est-ce qu'une mobilisation autour de ces Kurdes, oui, est possible, et y compris de la part des Kurdes même? Est-ce que les autres même sont solidaires de ça?
Oui.
Qui va venir au secours de ces Kurdes-là?
J'espère que nos amis Peshmerga irakiens, ils sont au chômage.
Certes.
Non, mais c'est vrai que ça va être très difficile au niveau militaire, en tout cas.
Mais parce que je vous entends, je vous ai lu...
Politiquement...
Parce que je vous ai lu, Frédéric Tissot, dire vous-même que le Kurdistan unifié, ça n'existe pas. Que même la solidarité entre les Syriens et les Irakiens était compliquée.
Oui, depuis 100 ans, ils ont été séparés. Dans chaque pays, les Turcs, ils ont subi l'influence des Turcs, l'influence arabe, l'influence persane, etc. Et c'est très difficile. Ce sont des partis politiques différents, des cultures différentes. Ici, c'est plus féodal que là-bas. Ils sont plus gauchistes, marxistes-léninistes, etc. Bon, et effectivement, et ils se détestent. Ils se détestent.
Et pour ça, est-ce qu'ils cesseraient de se détester au moins provisoirement ou pas?
Ben, j'aimerais bien.
Mais vous n'y croyez guère. Je vous entends là, vous n'y croyez
guère. Écoutez, je leur dis continuellement.
Ben voilà.
Voilà, c'est tout. Mais écoutez, je suis venu le dire à la radio, à France Inter, un jour dans le monde.
Et ben,
bravo.
Et j'espère qu'ils vous ont écouté, qu'ils nous écoutent et qu'ils vous ont écouté. C'est un plaisir, comme d'habitude, Frédéric Tissot, de nous avoir avec
vous. Merci infiniment.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'un jour dans le monde sous les radars avec Sébastien Logeni. Nous sommes aussi en Corée avec une appli bande dessinée à la main grâce à Christine Siméon. Vous allez voir qu'on l'aura forcément chez nous aussi dans peu de temps. 18h50, l'actu en série, l'écolo, planète propre et planète sale, Sandy Dauphin. Vous avez testé pour nous des idées un peu folles pour refroidir la planète.
Oui, ces solutions d'ingénieurs et une technique en particulier qui renvoie les rayons du soleil dans l'espace.
Sauf qu'il paraît que ça marche pas.
Bah, écoute,
voilà, vous nous le direz tout à l'heure. 18h55, Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers. Jean-Marc,
bonsoir, Fabienne.
Profitez de la fuite là. Bonsoir Jean-Marc, de la visite de Mike Pence à Jérusalem pour mettre les pieds dans le plat.
Oui, on va faire un peu de provoque. Et si Trump avait raison sur le statut de Jérusalem? Je sens que je ne vais pas me faire que des amis.
Eh bien écoutez, à tout de suite, restez avec nous quand même. C'est Oasis qu'on écoute sur France Inter, Wonderwall.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding.
Wonderful Oasis avec Wonderwall sur France Inter. Sous les radars, c'est Sébastien Eugénie ce soir.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachio Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sébastien et l'actualité coincée dans les recoins de la planète. Nous partons d'abord pour Gaza. Gaza qui sera bientôt cerné par un mur, ça on le sait, mais un mur souterrain aussi de plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
Oui, c'est une idée israélienne qui date de la dernière guerre de Gaza pendant l'été 2014. Durant ce conflit de près de deux mois, l'armée israélienne avait dû faire face à plusieurs infiltrations des commandos du Hamas grâce à des tunnels percés sous la terre. Ce sont en effet des centaines de kilomètres de galeries qui sillonnent le sous-sol de Gaza depuis des années, une arme de guerre stratégique pour le mouvement islamiste au pouvoir. Alors pour tenter d'éviter un scénario cauchemardesque type prise d'otages massive, l'État hébreu fait ce qu'il sait faire, des murs. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'ériger un mur comme autour de la Cisjordanie, mais bien de l'enfouir très profondément. Écoutez les détails qu'ajoute ce journaliste de la télé francophone israélienne I24 News, Mathias Ibar.
Aujourd'hui, l'armée israélienne est sur le point de mettre fin à l'arme stratégique, la plus stratégique du Hamas et du djihad islamique, en l'occurrence, ce tunnel, il a été construit pour faire mal, pour terroriser la population israélienne et l'armée israélienne. Aujourd'hui, cette armée qui a trouvé la solution. Malheureusement, on ne peut pas montrer des images.
La solution, c'est ce mur souterrain.
C'est ce mur souterrain qui construit à plus de entre 50 et 100 mètres, Julien, sous terre. Aujourd'hui, 4 kilomètres à peine ont été construits, mais les travaux s'accélèrent, en clair, selon l'armée israélienne. Eh bien, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de pouvoir s'infiltrer depuis la bande de Gaza vers Israël qu'il ne le sera demain.
À terme, ce tunnel devrait faire 65 km de long pour un coup.
100 mètres sous terre, j'entends.
Potentiellement, on ne connaît pas les détails, évidemment, de ce mur qui est très secret pour l'instant, donc qui coûtera normalement 750 millions d'euros et l'ouvrage devrait être terminé d'ici 2019.
Hein. Allez, direction l'Afrique de l'Est, 2019, dis donc, c'est demain. Direction l'Afrique de l'Est, à la rencontre du peuple Maasai, sans doute l'ethnie africaine qu'on connaît le plus dans le monde à cause de ses visages qu'on connaît bien, une notoriété dont les Maasai aimeraient pouvoir profiter un peu.
Oui, on connaît tous leur silhouette. silhouette d'éleveur longiligne drapé de toges rouges, le corps orné de dizaines de perles. Le tourisme est souvent leur seule source de revenus liée à l'exploitation de leur image. Or, leur culture, leur façon de s'habiller notamment, est devenue une véritable source d'inspiration. Il existe des sandales, des robes, des 4x4 même, Maasai. On utilise leur nom chez Louis Vuitton, Calvin Klein, Ralph Lauren, Jaguar ou Land Rover, et tout cela eh bien sans verser aucune compensation. C'est à cela évidemment que les Maasai veulent mettre fin. En clair, ils veulent faire de leur culture une marque et obliger les grandes firmes à leur payer des droits. Écoutez Eric Olé Raison, qui fait partie des membres de l'initiative pour une propriété intellectuelle Maasai. S'il y a un moyen que cette culture puisse aussi bénéficier aux Maasai, ce serait excellent. Parce que par exemple, maintenant, nous avons des enfants qui vont à l'école. Et pour pouvoir avoir de l'argent, il faut vendre une vache. Nos femmes, les hommes n'ont aucune autre ressource que de vendre des vaches. Or, nous voyons beaucoup de gens autour de nous faire de l'argent avec notre culture. Voilà, les Maasai ne sont pas les premiers à tenter de protéger leur nom pour en tirer profit. Les aborigènes également d'Australie perçoivent des royalties si leur entreprise utilise leur image.
Allez Sébastien, on termine en musique. Entre de la pop symphonique et de la parade militaire, ça ressemble à quoi? Ah ben ça.
Très variétoche, hein.
Oui, on attention. Dirait Abba qui ferait son service militaire, en fait.
C'est
hein,
ça.
Ça. C'est un peu Super Trooper. Allez-y.
Une sorte d'ovni musical.
C'est ça.
On pourrait même parler d'un missile, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de, qu'il vient de Corée du Nord. Ça s'appelle Morandbong. C'est un groupe de femmes, tout affublées d'un déguisement étrange qui tient de l'infirmière ou de l'hôtesse de l'air. On sait pas bien. Et si je vous en parle, c'est pas pour leur qualité vestimentaire ou musicale, mais pour leur qualité politique, puisque la chanteuse principale de ce groupe est une star à Pyongyang. On lui prête même une relation très spéciale avec le leader Kim Jong-un. Mm-hmm. Et elle vient d'être choisie pour aller préparer les JO d'hiver en Corée du Sud, vous le savez, dans quelques jours. Un nouveau signe de réchauffement entre le Nord et le Sud. On espère juste qu'elle ne fera pas l'hymne des JO de Paris.
Merci beaucoup, Sébastien Logénie. Et bah tiens, de la Corée du Nord à la Corée du Sud, il n'y a qu'un pas. C'est d'ailleurs souvent ça le problème.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est donc bien en Corée du Sud que le reportage d'un jour dans le monde nous fait voyager ce soir. Et puisque nous sommes en Corée, nous avons notre téléphone portable juste à côté, là, plus près de nous. C'est pas possible. Bonsoir, Christine Siméon.
Bonsoir.
Les Coréens ont une habitude que nous n'avons pas encore, mais sûrement sommes-nous sur le chemin. Ils lisent frénétiquement, ce qu'on appelle des webtoons sur leur téléphone portable. Expliquez-nous ce que c'est que les webtoons.
Bah, c'est une contraction de web et de cartoon. Et ça se passe effectivement dans vos smartphones. Ici, dans vos mains, Fabienne,
oui.
L'application Dailytoon, application française avec des webtoons coréens à lire. Alors, ils sont traduits, je vous rassure, vous pouvez y aller.
Et donc, on scrolle, en fait. Le principe, c'est de lire une BD sur le portable, en montant son portable. Ça fait, c'est pas une planche, c'est une bulle par écran.
Ça ne se feuillette pas, effectivement. Alors, combien ça coûte?
Par exemple.
Quelques centimes par épisode, puisque chaque histoire peut faire une cinquantaine d'épisodes, plus ou moins d'ailleurs.
Et on achète tout l'épisode ou chaque épisode, on fait comme on veut?
On fait comme on veut, exactement.
Alors, et sinon, donc
ça ressemble à du manga, en fait.
Alors voilà, c'est du manga.
C'est le frère du manhwa. Le manhwa, c'est le manga coréen. Alors, pour comparaison, d'ailleurs, je signale qu'en France, il y a à peu près 1,5 million d'acheteurs de manga. Mm-hmm. Dailytoon, que vous avez en main pour l'instant, c'est une communauté de 100 000 lecteurs et lectrices, applis et sites compris.
Donc ça veut dire qu'il y a une marge énorme, en fait.
Oui, il y a une marge de progression. La Corée du Sud, c'est de son côté 51 millions d'habitants et 35 millions de smartphones ou tablettes. Bref, tout le monde en a un et ça explique la popularité du webtoon. Pour les Coréens, ça fait presque 10 ans que c'est banal. Le webtoon, ça sert à tout, en fait, faire de la pub ou raconter des histoires. Écoutez Han Yang-soo chez KakaoPage, plateforme de diffusion de ces contenus.
Dans les transports, la nuit avant de dormir, pendant une pause, tous les moments où il y a un moment pour lire, les gens lisent du webtoon.
Alors ils lisent des romances, mm-hmm. de la baston, du boys love, les filles, les jeunes femmes adorent ça. Alors l'une des séries à succès s'appelle Honey Blood, écoutez notamment cette lecture postée sur YouTube, lecture de fans.
쓰러져라, 잊혀져라, 넘어져라, 그렇게 거칠게 이기는 법을 외워라. 크런치.
아, 난 또 내 다리 씹어먹는 줄 알고. 아, 그 CF는 또 어떻게 알고 있는 거야?
vous n'avez pas tout à fait compris.
Non, mais ça ressemble à nos dessins animés d'enfance. Ça sent tellement le dessin animé asiatique.
C'est une histoire de harcèlement scolaire, en l'occurrence. Mmh. Il n'est pas rare qu'un webtoon soit adapté aussi en série télé. Mais en librairie, avec Yongrae Kim, responsable du développement de Dailytoon, je me suis retrouvée au milieu de tous ces webtoons en version papier.
Par exemple, celui-là, ça parle de la société, donc de la vie des gens, des salariés tout simplement, et des jeunes, des problèmes que les jeunes rencontrent quand ils commencent à travailler. Ça a été adapté donc en série télévisée qui a eu une audience conséquente. Donc il y a une première publication en digital, et ça se décline à ce qu'on appelle le transmédia tout simplement. Ça se décline en film, en série télévisée ou en animation. Ça dépend du style et du genre du titre en question. Derrière, c'est pour le coup de l'humour qui a été adapté donc par Netflix, qui a été distribué par Netflix à l'étranger. Le son du cœur.
Non, entre Séoul et Busan, et c'est dans un train que j'ai croisé Lee Na-re, la jeune auteure de ce fameux Honeybloom qui a eu tant de succès.
J'avais un petit studio avec deux assistantes pour le dessin et une éditrice pour revoir le lettrage et les textes. La question du harcèlement scolaire est très présente en Corée, mais également la place de la femme dans la société qui a très récemment pris de l'importance. En ce moment, je lis beaucoup de choses sur le féminisme, car c'est très polémique en Corée. Pour préparer ma prochaine publication, je me documente beaucoup sur la guerre de Corée.
Alors Christine, pendant que je suis en train de feuilleter celui que j'ai téléchargé moi, à ce jour et grâce à vous, donc on connaît le travail de Lee Na-re en France, par le biais de la publication de ce dont on parle à l'instant, Honeybloom, c'est sur le Dailytoon, l'appli que j'ai entre les mains, parmi une cinquantaine d'autres titres venus de Corée et chez nous aussi, elle fait partie des best-sellers.
Oui, et désormais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque ce qui va intéresser les producteurs de ces webtoons, c'est de se diversifier et d'aller chercher d'autres histoires. Écoutez, Kim Yong-joo, on appelle James en Corée quand c'est on le rencontre, chez Kidari Entertainment, il est chargé du développement des webtoons et vous allez voir.
Pour l'instant, les Coréens ne lisent pas les auteurs européens, ni de la francophonie en général. Mon souhait est de diversifier le paysage en faisant connaître des œuvres venues d'Europe. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut simplement informer les auteurs français de la façon de faire des webtoons. Par ailleurs, on s'intéresse de près aux licences françaises de BD et à la littérature française. On pourrait très bien adapter certains livres, mais aussi des créations audiovisuelles ou de cinéma français et même des jeux vidéo, et de les proposer sur le marché coréen et asiatique, et réciproquement.
Et attention, Fabienne, demain, sur Dailytoon,
que j'ai téléchargée,
non pas coréenne, mais française, philo-comics consacrée à la philosophie, Platon et autres grands sages de notre vieille culture européenne, peut-être qu'un jour, les Coréens apporteront philo-comics.
Eh bien écoutez, on verra ça. Merci beaucoup, on a découvert ça grâce à vous sur Dailytoon. Donc Christine Simone, merci beaucoup. Lâchez vos téléphones et votre appli, maintenant peut-être tout juste téléchargé. Et sur France Inter, c'est Hills Deconstruction.
And if you think that it was rough, I tell you not to try.
Sur France Inter, Decontraction.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Bonjour tout le monde.
Il n'a pas du tout dit décontraction, il a dit déconstruction le monsieur, ce qui n'est pas du tout pareil. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Sandy qui chaque semaine essaie de reverdir et refroidir la planète avec ses petites mains. On sait que l'année 2017, Sandy, a été l'année la plus chaude après 2016, depuis le début des relevés météorologiques, deuxième ou troisième année la plus chaude. Vous nous présentez ce soir alors quelques idées, un peu géotrouve-tout, comme ça, pour aider la planète à refroidir, et notamment des techniques qui font réfléchir les rayons du soleil et ça ferait baisser la température de la Terre, c'est ça?
Oui, ces chercheurs ont observé les volcans, et là en particulier, en 1991, l'éruption meurtrière du Pinatubo aux Philippines, plus de 800 morts, a été d'une telle ampleur qu'elle a refroidi le climat de presque 1 degré pendant plusieurs mois.
Donc, il faut nous expliquer.
Eh bien, le volcan éjecte un nuage de cendres dans l'atmosphère et ses particules de dioxyde de soufre agissent comme un miroir. Elles renvoient les rayons du soleil dans l'espace. Les volcans inspirent des projets de géo-ingénierie. Le climatologue Olivier Boucher de l'Institut Simon Laplace travaille justement sur des modélisations informatiques.
La technique principale qu'on étudie consisterait à injecter dans la stratosphère, donc dans la partie haute de l'atmosphère, des particules qui viennent réfléchir le rayonnement solaire et donc refroidir le climat de la Terre. Toute la partie technique de ces technologies de géo-ingénierie n'est pas complètement établie. Et on ne sait pas exactement comment on le ferait, mais l'hypothèse la plus probable, ça serait d'utiliser des avions pour aller emmener soit du dioxyde de soufre, soit des particules dans la haute troposphère ou dans la basse stratosphère.
Une autre piste consisterait à pulvériser de l'eau de mer dans les nuages pour les rendre aussi plus réfléchissants.
Voilà, pas complètement établi, c'est ce qu'on a entendu dans ce que disait le monsieur précédemment, mais enfin parce que ces projets de géo-ingénierie, comme il dit, c'est pas des solutions miracles, Sandy.
Oui, ils sont d'ailleurs assez controversés. Une étude publiée hier dans la revue Nature, Écologie et Évolution s'inquiète. Si l'on joue avec les rayons du soleil, cela risque d'avoir des conséquences sur la biodiversité. Imaginez, des avions dispersent 5 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère au niveau de l'équateur chaque année pendant 50 ans, entre 2020 et 2070. Les modèles informatiques montrent que ça marche, la température moyenne chute de 1 degré. Mais l'étude pointe un risque important. Si l'on arrête net ce traitement de choc, il y a ce qu'on appelle un rattrapage climatique.
Ah bah.
Ça chauffe d'un seul coup et plus vite, 10 fois plus vite que si l'on n'avait rien fait, dit l'étude. Les plantes et les animaux n'ont donc pas le temps de s'adapter, de migrer.
Ah bah, en effet, c'est peut-être un souci. Alors, vous nous parlez de modélisation. Ça veut dire que ça n'a jamais été testé grandeur nature, en fait.
Non, mais un ingénieur américain de Harvard qui défend ces techniques veut passer à l'étape d'après. David Key veut mener une première expérimentation dans le désert de l'Arizona l'automne. Ce sera à petite échelle. Beaucoup de scientifiques sont au pire sceptiques, au mieux prudents, comme Olivier Boucher de l'Institut Laplace.
Nos modèles indiquent que ces techniques permettent de refroidir le climat. On a relativement peu de doutes là-dessus, mais on voit aussi un certain nombre d'inconvénients, d'effets de secondaire et de risques qui sont associés à ces techniques. Je ne suis pas favorable à l'implémentation de ces techniques, mais néanmoins, j'estime qu'il faut continuer à les étudier pour les comprendre. Donc, tant qu'on n'a pas une situation très claire sur le devenir du réchauffement climatique et la réduction avérée des émissions de gaz à effet de serre, j'estime qu'il est important de continuer d'étudier ces techniques.
On sait aujourd'hui ce qu'il faut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Plutôt que de jouer aux apprentis sorciers pour refroidir la planète, pourquoi ne pas éviter qu'elle ne chauffe encore plus ?
Voilà, le bon sens écolo de Sandy Dauphin dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Et Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers, comme tous les soirs, dans Un jour dans le monde, avec les infos qui tombent sous le sens dont on a parfois perdu le vrai sens. Jean-Marc, vous vouliez nous parler d'Israël ce soir, alors que Mike Pence, le vice-président américain, termine sa visite. Il était sur le mur des lamentations il y a un peu plus d'une heure aujourd'hui. Hein, Mike Pence qui a redit et réaffirmé le transfert dans l'ambassade de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Et la question que vous pouvez vous poser ce soir, Jean-Marc, c'est: et si Trump avait raison?
Et là, je sens que je vais me faire des ennemis parce que examiner cette hypothèse, c'est tabou et c'est risqué de sortir du politiquement correct sur le sujet israélo-palestinien. Bon, on essaie quand même.
Allez-y.
Après tout, oui, peut-être Trump a-t-il raison de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Raison sur un terrain bien précis, celui du monde réel. Pas celui du droit, là il a tort. Il est établi au regard du droit international que l'occupation de Jérusalem Est par les Israéliens est illégale. Quant au terrain de la religion et du statut des différents lieux saints, je n'aurais pas l'inconscience de me hasarder sur ce terrain. En revanche, oui, Trump a peut-être raison sur la situation de fait. Quand on va à Jérusalem, on le voit bien, de fait, les Israéliens sont installés à Jérusalem-Ouest, non seulement à l'Ouest, mais de plus en plus à l'Est, par annexion progressive des territoires palestiniens. Donc, de fait, Israël a fait de Jérusalem sa capitale, là où siègent son parlement et son gouvernement. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est une situation admise par de nombreux Palestiniens. Pas les officiels, évidemment, c'est impossible, c'est tabou, je vous l'ai dit. Mais dans le propos du Palestinien de la rue en Cisjordanie, il déplore cette situation, mais il la constate, Jérusalem est dans les faits la capitale d'Israël.
Alors admettons, Jean-Marc, mais quand on joue avec le feu dans cette région, on sait qu'il est mauvais joueur, la décision américaine est quand même extrêmement dangereuse.
Évidemment que c'est dangereux, évidemment qu'il y a un risque d'embrasement de la zone, même si on le remarquera, ça n'a pas eu lieu pour l'instant. Évidemment que ça peut paralyser les négociations de paix pour un moment, mais là encore, stop à l'hypocrisie. Les négociations de paix, de toute façon, elles sont dans l'impasse. Séquence nostalgie. Je vous ai apporté ici en studio un document, Fabienne, vous voyez, c'est le journal papier du 14 septembre 1993, la fameuse poignée de main Rabin Arafat sous l'égide de Clinton. À ce moment-là, on y a cru, c'était il y a 25 ans. Et depuis cette date, a fortiori depuis l'assassinat de Rabin, qui a suivi deux ans plus tard, en 95, nada, rien, les négociations de paix l'un dans l'autre, elles font du surplace, voire marche arrière. On radote la solution à deux États avec Jérusalem pour capitale partagée, mais dans les faits, rien ne se passe. Donc la décision de Trump, confirmée par cette visite de Pence en Israël, elle a au moins le mérite de mettre un terme à une hypocrisie.
Donc, admettons, Jean-Marc, là encore, mais après cette décision, est-ce que ça veut dire que les États-Unis ne pourront plus négocier avec les deux parties?
Ben non, ils peuvent pas. Et là aussi, c'est la fin d'une hypocrisie, l'hypocrisie du honest broker. Vous savez, c'est la formule des anglo-saxons, ça veut dire littéralement le courtier honnête, c'est-à-dire le type, le bon intermédiaire équitable dans une négociation. Eh bien, les États-Unis ne sont pas un honest broker. Là, avec Trump, au moins ça devient clair, peut-être à son corps défendant, mais ça devient clair. Et en réalité, ça fait 23 ans que le Congrès américain a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est juste que depuis lors, les présidents américains avaient toujours refusé d'entériner cette décision. Donc la position américaine est plus proche des Israéliens que des Palestiniens. Et l'explication tient pour beaucoup à des raisons électorales intérieures, c'est-à-dire le poids des chrétiens évangéliques aux États-Unis qui sont très favorables à cette décision sur Jérusalem.
Résultat des courses, et rapidement, les Palestiniens, on s'en moque.
Bah, c'est l'impression que ça peut donner, mais en même temps, arrêter de leur dire qu'on négocie la paix alors qu'on ne fait pas grand-chose, c'est juste leur parler enfin comme à des adultes et cesser de les prendre pour des imbéciles. Ce dont les deux pays ont sans doute le plus besoin aujourd'hui, c'est de l'émergence de nouveaux leaders, parce que les logiciels de Mahmoud Abbas et de Benjamin Netanyahou de l'autre côté apparaissent tous les deux un peu datés.
Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde, merci beaucoup, à demain. La suite du 18-20, c'est Sébastien Paour et le téléphone sonne.